Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis, Seigneur, tous ensemble devant ta majesté, devant ta sainte personne, reconnaissant, Seigneur, que tu as veillé, Seigneur, sur chacun d'entre nous aujourd'hui et tu nous as gardés, tu nous as conduits, tu nous as donné la direction à suivre. Et si nous avons été à ton écoute, Seigneur, nous avons vu ta main à l'œuvre. Nous avons vu ta bénédiction et nous t'en remercions, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, pour tous nos chers frères et sœurs, Seigneur, qui sont malades, Seigneur, comme Maïté, Seigneur. Nous voulons la remettre entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses passer ta main guérissante, Seigneur, sur elle, afin qu'elle soit totalement rétablie, Seigneur, et que ton nom, Seigneur, soit glorifié encore, Seigneur, mon Dieu. Oui, nous pensons aussi à Joël, Seigneur, notre cher frère Joël. Nous avons à cœur, Seigneur, qu'il se relève, Seigneur, qu'il se rétablisse totalement, parce que nous avons vraiment envie de le voir debout, Seigneur, et dans la joie, Seigneur, d'être avec ses frères et sœurs et au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu. Merci encore pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui avons, Seigneur, ces difficultés pour avancer, Seigneur, avec les soucis, les inquiétudes. Nous remettons chacun d'entre eux, Seigneur, entre tes mains et nous prions que ta parole puisse parvenir au cœur, aux âmes, Seigneur, et qu'ils soient totalement rétablis, Père. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Bien. Bien. Alors, bienvenue à tout le monde. Hein.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci aux gens qui arrivent. On vient juste de finir de prier. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu plus pas facile, mais plus aisé, on va dire, que la dernière fois, parce que la dernière fois, c'était assez ardu. Hein. C'était ouf. Il fallait s'accrocher. Mais aujourd'hui, ça va être un peu plus cool, on va dire. Parce qu'il s'agit de ce qui nous concerne tous, hein, qui nous sommes ici, c'est-à-dire la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, elle est longue, c'est vrai. Elle peut être longue, elle peut être compliquée, elle peut être difficile, mais en tout cas, le Seigneur ne nous a pas laissés sans directive, sans assistance. Ça ne nous a pas dit, bon, tu es sauvé, maintenant tu te débrouilles. Hein. Voilà. Non, non. Mais voilà. Donc, c'est la vie chrétienne qu'on va voir comment tout ce que Dieu met en branle, à partir du moment où on se donne à lui, jusqu'au moment où on le voit face, on le verra face à face. C'est-à-dire, quand soit qu'il revienne nous chercher, soit que nous allions auprès de lui. Voilà. Donc, c'est ce moment-là qu'on va voir. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire passer donc les feuilles où il y a le canevas de l'étude. Ça peut paraître peut-être un peu beaucoup, mais c'est pour vous à la maison surtout. Nous, ici, on va voir l'essentiel, hein. Mais si vous voulez approfondir vraiment, il y a toute la liste des versets, il y a des indications pour pouvoir poursuivre chez soi tranquillement cette étude. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, c'est la vie chrétienne, c'est-à-dire voir comment se déroule notre vie ici-bas, dès l'instant où on se donne au Seigneur, qu'on devient enfant de Dieu. Alors, je rappelle juste comment on devient enfant de Dieu, hein, c'est assez simple, mais assez, disons, ça engage toute la personnalité, parce que, rappelons-nous, chacun de nous a entendu la prédication de l'Évangile, et notamment la prédication de la croix. Alors nous avons été convaincus de péché, et puis il y a eu des opérations simultanées qui se sont passées en nous. Nous avons été régénérés. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous avons été habités par le Saint-Esprit. Et toutes ces opérations sont simultanées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai entre le fait d'être régénéré, après on attend 2-3 mois plus tard, on est baptisé du Saint-Esprit, puis un an plus tard, on est scellé. Non, c'est dès l'instant, on se donne au Seigneur, on donne son cœur au Seigneur, tout ça, ça vient en nous. Et c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et après, moi je me suis posé parfois la question, mais Seigneur, pourquoi dès l'instant où on se donne au Seigneur, tu ne nous prends pas tout de suite auprès de toi? Si c'était comme ça, moi je ne serais pas là pour vous parler. Parce qu'il n'y aurait aucun chrétien pour évangéliser notamment. Donc après, il y a toute une vie qui s'appelle la vie chrétienne, une vie de sanctification, et on va voir exactement en quoi ça consiste, en attendant de rejoindre le Seigneur et de le voir tel qu'il est face à face. Une vie de sanctification, qu'est-ce que c'est? D'abord, ce soir, on va s'y attarder un tout petit peu, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on étudie ce que c'est qu'une vie de sanctification? Et non seulement ça en vaut la peine, mais c'est vital. C'est vital de comprendre ce que c'est qu'une vie de sanctification. Nous allons prendre un premier texte pour voir son importance dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14, l'importance de la notion de sanctification. Si quelqu'un trouve, lit.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Ah, c'est clair. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est que la sanctification? Le verbe sanctifier vient d'un mot grec, je vais mal le prononcer certainement, adiazo, qui veut dire plusieurs choses. Qui veut dire d'abord vénérer. Ensuite, séparer des choses profanes et les offrir à Dieu, les dédier à Dieu. Ensuite, ça peut vouloir dire aussi purifier, nettoyer l'extérieur, purifier par expiation, c'est-à-dire libérer de la culpabilité du péché. Ça peut vouloir dire aussi purifier l'intérieur, par renouvellement de ce qui est au-dedans de nous. Donc voilà tout ce synonyme du verbe sanctifier. Sanctifier, c'est donc tout d'abord une mise à part pour Dieu. On sépare et on dédie à Dieu. Alors il y a des personnes qui ont été séparées et dédiées à Dieu depuis le ventre de leur mère, comme l'apôtre Paul, par exemple, comme l'apôtre Paul, en Galates, chapitre 1, verset 15, Galates 1, 15, si quelqu'un peut lire.
Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce.
Voilà, mis à part, donc sanctifié, dès le sein de sa mère. Avant qu'il ne naisse, l'apôtre Paul, et d'ailleurs, vous verrez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnes comme Élie, comme Esaïe, etc., qui ont été séparées de le ventre de leur maman et entièrement consacrées à Dieu. Donc, une mise à part pour Dieu. Sanctifier, c'est aussi une imputation, c'est-à-dire que les mérites de Christ, tout ce qu'il a fait, l'œuvre de Christ à la croix, tous les bénéfices nous sont attribués gratuitement, par grâce. C'est ce qu'on appelle l'imputation de Christ. Sanctifiés, nous sommes donc sanctifiés par ce que nous n'avons pas fait, ce que nous ne méritons pas. Parce que tous les mérites reviennent à Christ, mais dans sa grâce, Christ nous le donne comme si c'était nous qui avions mérité donc les mérites de Christ. Par exemple, prenez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. 1 Corinthiens 1 30.
Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption.
Voilà. Donc, c'est par lui, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, et par sa volonté, donc la volonté de Dieu, c'est de nous attribuer les mérites de Christ. C'est comme quelqu'un qui réussit à un concours et qui attribue aussi la réussite de ce concours à ceux à qui il l'attribue. Voilà. Donc, l'imputation. Mais se sanctifier, donc, c'est aussi se purifier. Il y a une notion de purification de toutes sortes de mal ou de souillures. Par exemple, vous rappelez que dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs, avant de commencer leur service, ils faisaient quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se lavaient, ils se nettoyaient les parties du corps, les mains, etc. Il fallait une purification, une sanctification de leur être pour être pur, sans souillure, devant Dieu. En tout cas, c'était une façon, un type, une illustration de ce que c'est que se sanctifier, c'est se purifier de tout mal moral, physique, etc. Prenez par exemple Exode chapitre 19, verset 22.
Même les prêtres qui s'approchent de moi doivent se purifier sous peine de voir l'Éternel décimer leur rang.
Voilà, les prêtres qui s'approchent de Dieu doivent se purifier, donc se nettoyer. Hein, évidemment, c'est un type, hein, c'est-à-dire c'est une préfiguration, une leçon de choses en quelque sorte pour nous, parce que nous savons que la vraie purification vient par le sang de Jésus-Christ. Alors, une fois qu'on est purifié, on aurait peut-être tendance à dire, bon, ça y est, moi je suis pur, donc ça y est, pour l'éternité, je suis sanctifié, voilà, donc il n'y a plus de souillure, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est ça? Non. Non, parce que, hélas, nous avons encore notre ancienne nature, qui peut encore nous pousser à nous salir. Et donc, la sanctification est une opération qui va durer toute la vie. Tant qu'on est en chair et en os sur cette terre, nous aurons besoin d'être sanctifiés, d'être purifiés. C'est le processus de sanctification qui a pour but de nous faire ressembler à Christ. Prenez par exemple Romains chapitre 8 verset 29. Romains 8, 29.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères.
Voilà. Ceux qu'il a connus d'avance, donc dans sa préscience, dans sa façon d'être en dehors du temps, Dieu nous avait prédestinés, c'est-à-dire qu'il avait tout mis en branle pour que depuis le moment où on accepte Christ jusqu'au moment où on le voit face à face, pour que tout ce processus-là aille jusqu'à son terme. Il n'y a jamais d'échec. Il n'y a pas quelqu'un qui a été sanctifié, né de nouveau. Et puis à un moment donné, ah ben ça y est, bon, on le verra un peu plus loin d'ailleurs, ça y est, j'ai perdu le salut. Non, non. Une fois que Dieu nous a pris en main, qu'on est né de lui, le processus va aller jusqu'à son terme, jusqu'à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, évidemment, on pourrait se poser la question, mais quand est-ce que ça va finir, cette sanctification? Est-ce qu'il y a une fin? Ou est-ce qu'elle continue éternellement? Est-ce qu'il y a une fin à la sanctification? Autant il y a eu un début, c'est-à-dire au moment de notre nouvelle naissance, il y aura une fin, c'est-à-dire au moment où nous verrons le Seigneur face à face. Et là, nous serons rendus parfaits. Prenez par exemple 1 Corinthiens 6, 11, qui nous montre l'acte initial de la sanctification. 1 Corinthiens 6:11.
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu.
Voilà, donc là, Paul s'adresse aux Corinthiens. Il leur dit, voilà, vous étiez ceci avant, mais maintenant, regardez ce que vous êtes devenus. Donc, il y a eu, à un moment donné, un commencement de la sanctification. Mais il leur dira aussi que ce n'est pas fini. Ce processus doit se prolonger tout au long de votre vie. Par exemple, prenez dans Colossiens, chapitre 3, versets 8 à 10. Colossiens 3, 8 à 10.
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
Voilà. Alors, Paul s'adresse à des chrétiens. Hein. Il leur dit, bon, vous avez été sanctifiés, oui, vous êtes nés de nouveau, etc. Mais maintenant, renoncez, mais renoncez à quoi? La colère, ouf. L'animosité, oh là là. La méchanceté, mais c'est pas possible. La calomnie, les paroles, c'est qu'il faut... Mais j'ai été sanctifié. Eh oui, mais il y a encore tout ça. Et tout ça doit être purifié progressivement. J'avais une tendance à mentir, par exemple. Eh bien, il faut que le Seigneur m'en purifie progressivement. Et il va le faire. Il va tout mettre en branle, des choses agréables comme des choses désagréables, pour me conduire petit à petit à laisser certaines choses qui lui déplaisent. Et évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, la sanctification ne sera achevée que lorsque nous serons face à face avec le Seigneur, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.
Voilà. Donc, voilà la perspective. La perspective, c'est que quand nous serons face à face avec le Seigneur, nous serons rendus parfait, parce que lui, il est parfait. Et comme lui, il est parfait, que nous sommes unis à lui, ben, nous ne pouvons que être aussi, enfin, avoir la même perfection, avoir la même sainteté. Il ne peut pas supporter la moindre souillure en nous. Donc, notre sanctification sera achevée quand on le verra face à face. Et Dieu va s'employer dans notre vie. Et c'est ça le plus grand, entre guillemets, problème pour nous, c'est que nous avons tendance à ne pas tellement être d'accord avec le Seigneur quand il nous sanctifie. Parce que parfois ça fait mal. Hein? La sanctification peut faire vraiment très très mal. Hein? Et pourtant, le Seigneur va mettre en branle tous ses moyens, les moyens de la sanctification. Alors, les moyens de la sanctification, et on va voir que les trois personnes de la Trinité vont travailler à notre sanctification. Par exemple, le Père. Comment le Père travaille à notre sanctification? Prenez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30.
Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption.
La volonté du Père. Donc, le Père veut et il met tout en branle dans le Fils. Alors, le Fils, quand est-ce qu'il participe à notre sanctification? Hébreux 13, 12.
C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte.
Voilà. Jésus-Christ, afin de sanctifier le peuple, donc c'est Jésus qui nous sanctifie par son propre sang, à la manière du souverain sacrificateur qui sanctifiait le peuple, évidemment pas par son propre sang, mais par le sang des animaux que Dieu avait nommés. Donc là, le Fils nous sanctifie. Et le Saint-Esprit aussi nous sanctifie. Regardez par exemple Romains chapitre 8, verset 13. Comment le Saint-Esprit nous sanctifie.
Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Voilà. Donc par l'Esprit, le Saint-Esprit en nous fait mourir les actions du corps, nous sanctifie pour que nous soyons de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc les trois personnes de la Trinité travaillent à notre sanctification. Alors on pourrait se dire, ah ben c'est chouette, c'est très très bien, merci Seigneur, et donc moi je suis là dans mon fauteuil et j'attends que le Père, le Fils et le Saint-Esprit me sanctifient, tel que nous venons de le voir. Ça serait un oreiller de paresse, la sanctification. Mais non, ce n'est pas un oreiller de paresse, parce que nous avons aussi une part. Nous avons notre part aussi. C'est vrai, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous sanctifient et nous n'avons rien à ajouter à l'œuvre de Christ. Et rien à enlever, rien à rajouter. Mais en revanche, il nous demande juste quelque chose qu'on trouve dans Philippiens 2, 13. Philippiens 2, 13. Merci. Pardon, qui commence par Philippiens 2, 13. C'est pas là qu'on le trouve. On le trouvera un peu plus loin.
Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
Voilà, donc Dieu va commencer par stimuler notre volonté. Il stimule. Donc, l'initiative vient de Dieu, vous remarquerez. Hein. C'est quand même incroyable, puisque il s'agit de notre volonté. Mais l'initiative vient de Dieu. Dieu va stimuler notre volonté. Et nous réagissons selon 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1.
Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu.
Voilà. Nous devons développer, c'est-à-dire nous devons prendre cette main tendue de Dieu, nous devons la saisir, cette espérance, nous devons saisir l'œuvre de Christ, nous devons nous l'approprier pour qu'elle devienne efficace. Et c'est toujours comme ça que ça marche dans la vie chrétienne. Si je ne m'approprie pas les promesses de Dieu, les œuvres de Dieu, tout ce que Dieu me donne, ça reste sans effet pour moi. Même si, entre guillemets, potentiellement, j'ai toutes ces choses, mais pratiquement, je ne les ai pas. Je ne les ai pas parce que je suis un peu comme indifférent. Ou alors indolent, attendant que tout soit mâché, un peu comme un enfant qui attendrait que tout vienne des parents de A jusqu'à Z. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas un service qu'on rend aux enfants si on agit de cette manière-là. Et bien, là aussi c'est pareil, Dieu a tout fait. Et nous avons juste à saisir. Hein, vous vous rappelez l'image du petit enfant qui saisit la grande main de ses parents. Mais comme sa main est petite, ben il va saisir le petit doigt, il va serrer. Le père voit que ben, ça ne tient qu'à un fil. Alors, la main du père prend la main de l'enfant et le tire de sa détresse. Et finalement, au bout du compte, c'est Dieu qui fait tout le travail de A jusqu'à Z. Mais il attend néanmoins qu'on saisisse la main. Si on ne saisit pas, ben, en fait, on manifeste par là que nous sommes indifférents quelque part, que ça ne nous intéresse que très peu. Et si ça ne nous intéresse que très peu, ben Dieu, qu'est-ce que voulez-vous qu'il fasse? Il ne va pas nous forcer à accepter ce qu'il nous donne. Voilà. Donc, comment ça se passe? Ok.
Jean,
oui?
J'ai une question.
Oui.
Si j'ai bien compris, Dieu, en fait, il attend. C'est pour notre bénédiction, c'est de la bénédiction que vous parlez.
Oui, je parle donc de cette main tendue de Dieu pour que nous puissions rentrer dans le processus de sanctification. C'est-à-dire qu'il va, mettre dans notre vie tout un tas de choses, mais ces choses-là, nous pouvons les refuser. Je ne suis pas obligé d'accepter, par exemple, la souffrance. Par exemple, je peux refuser. Et pourtant, Dieu veut que je passe par la souffrance pour que je sois sanctifié. Et si je refuse cette souffrance-là, bah, je passe à côté de cette bénédiction, effectivement. Effectivement. Voilà. Alors, donc il y a ça. Et puis, Dieu va aussi mettre en branle quatre choses importantes qu'on appelle les quatre piliers de la vie chrétienne. Quels sont les quatre piliers de la vie chrétienne? Acte 2, 42.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Voilà. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'étude biblique, c'est ce qu'on est en train de faire. Il persévérait dans la communion fraternelle, c'est ce que nous faisons aussi, hein, lorsque nous nous réunissons. Dans la fraction du pain, c'est ce que nous faisons le dimanche, et dans les prières. Ces quatre piliers vont participer aussi à notre sanctification. Si je refuse, par exemple, l'étude biblique, ben, quelque part, je ne veux pas être très très solide. Hein. Je peux être emporté à tout vent de doctrine, par exemple. Si je refuse la communion fraternelle, ben, je me retire dans mon coin, je suis un peu aigri, égoïste, je suis plus enclin à juger mes frères et sœurs. Et donc, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faut qu'on soit ensemble pour se soutenir aussi. Etc., etc. Donc, ces quatre piliers, il ne faut pas les négliger. Il y a des gens qui vous diront, « Ah, mais oui, mais moi, je préfère l'étude biblique par rapport à la réunion de prière, parce que je trouve plus intéressant, etc. » Mais non, 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 c'est une erreur. Les quatre piliers doivent être présents dans notre vie. Évidemment, il y a des circonstances où, malheureusement, je pense à nos frères et sœurs qui sont dans les pays de persécution, un, deux, ou même tous ces piliers peuvent venir à manquer. Mais ils sont dans une situation spéciale, et à situation spéciale, Dieu va donner aussi une délivrance spéciale. Mais en temps normal, nous ne devons pas négliger aucun de ces quatre piliers. Voilà. Alors, est-ce qu'avant de continuer plus loin, il y a peut-être des questions ou des remarques? Est-ce qu'on va passer à quelque chose de plus particulier maintenant? Par rapport à la sanctification, justement. Parce que pendant le processus de sanctification, il y a une notion très importante, c'est la notion de la plénitude du Saint-Esprit. C'est très important parce que cette sanctification ne peut pas avoir lieu si je refuse ou si je néglige la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui veut me remplir. Et il ne peut le faire que sous certaines conditions. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais en tout cas, le Saint-Esprit va mettre tout en œuvre pour me remplir la plénitude du Saint-Esprit. Alors, un sujet aussi qui a fait couler beaucoup d'encre, à ne pas confondre avec le baptême du Saint-Esprit. C'est deux choses complètement différentes. Le baptême du Saint-Esprit, nous l'avons reçu au moment où nous sommes nés de nouveau. C'est un acte qui est acquis une fois pour toutes. On est baptisé du Saint-Esprit, comme on est scellé du Saint-Esprit, comme on est habité par le Saint-Esprit une fois pour toutes. Mais en revanche, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas acquise, même pour quelqu'un qui est né de nouveau. Et c'est ça, justement, qui fait réfléchir. Même né de nouveau, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas automatique. La nouvelle naissance ne suffit pas. On va voir un exemple. Prenez les Corinthiens, par exemple. Regardez, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. 9 à 10, on va dire, plutôt lire, hein. 9 à 10. On l'a lu tout à l'heure.
1 Corinthiens 6, 9 à 10.
Oui, c'est ça, oui. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10.
Ne savez-vous pas ?
Oui,
on l'a pas lu. Oui, oui.
Ah, pardon, je confonds avec un autre texte. Oui, pardon, excusez-moi.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? C'est celui-là.
Hein. Oui, c'est celui-là, oui.
Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu.
Et verset 11.
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Voilà, c'est ce verset 11 qu'on a lu tout à l'heure. Donc, vous voyez, ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est que vous étiez comme ça et regardez, vous êtes devenus lavés, sanctifiés, purifiés, être justifiés, etc., etc. Donc, on aurait pu applaudir et dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont resplendissants, ces chrétiens de Corinthe. Et pourtant, un peu plus loin, aux mêmes chrétiens de Corinthe, regardez ce que l'apôtre Paul va leur dire. Donc, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, les versets 1 et 3. 1 Corinthiens 3, donc auparavant, hein, pas après, mais avant. Regardez ce qu'il leur dit. 1 Corinthiens 3, les trois premiers versets.
Moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouviez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?
De la jalousie et de la dispute chez des gens qui ont été lavés, purifiés, sanctifiés, etc., etc. Oui. Donc le chrétien, même né de nouveau, malheureusement, porte encore et peut manifester encore toutes ces mauvaises œuvres. Voilà. Donc c'est bien la preuve que la nouvelle naissance n'est pas une condition suffisante pour être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas parce que je suis né de nouveau qu'automatiquement et en permanence, je suis rempli du Saint-Esprit. Non, 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 non. Et pourtant, Dieu veut que nous soyons non seulement remplis de l'Esprit, mais en permanence remplis du Saint-Esprit. En tout cas, il veut que tous les chrétiens, de tous les âges, à tous les âges, veulent soient remplis du Saint-Esprit. Et cela a commencé par exemple par les apôtres. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, pas de manière permanente. Par exemple, pour l'apôtre Pierre, on le voit. Et même l'apôtre Paul lui-même, à certains moments. Mais en tout cas, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Regardez par exemple dans Actes chapitre 4, verset 8. Voilà, Pierre rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, mais plus tard, malheureusement, ce n'était pas toujours le cas. Même les disciples, sans parler des apôtres, les disciples aussi étaient remplis du Saint-Esprit. Regardez par exemple Actes chapitre 2, verset 4. Les simples disciples.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Ah ouais, tous, donc les 120, étaient tous remplis du Saint-Esprit, aussi bien les apôtres que les autres. Voilà. Alors, maintenant, on pourrait se dire, oui, bon, ça, ok, mais moi, je suis là, tout petit, je suis un jeune converti, et c'est pas possible pour moi, je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit tout de suite. Il faut attendre un âge mûr, hein. Faut avoir la bouteille pour être rempli du Saint-Esprit. Non, pas du tout. Pas du tout. Regardez, par exemple, les chrétiens d'Antioche de Pisidie. Juste, Paul vient de leur annoncer l'évangile, et regardez ce qui se passe tout de suite après. Acte 13, versets 51 et 52.
Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.
Voilà, les disciples d'Antioche, donc, qui venaient de se convertir quelques jours, maximum quelques semaines, furent remplis du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une question d'ancienneté dans la vie chrétienne. Même un converti né de nouveau, qui vient de naître de nouveau, peut être rempli du Saint-Esprit. Alors, être rempli de l'Esprit est vraiment un ordre de Dieu. Nous n'avons pas le choix. C'est un ordre qui vient de Dieu. Regardez, par exemple, Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18.
Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit.
Voilà, soyez remplis. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc c'est un ordre de Dieu. Mais tu me diras, oui, ok, mais moi je veux bien obéir à cet ordre-là, mais explique-moi d'abord en quoi ça consiste. Réellement être rempli de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, être rempli de l'Esprit? Ben, Jean 4, verset 14, nous l'explique. Jean 4, 14.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Voilà, donc c'est ça, la plénitude du Saint-Esprit. C'est cette source en nous qui remplit et qui finit par déborder de plusieurs manières que nous allons voir plus tard. Mais en tout cas, c'est une source que Dieu a mise en nous, c'est le Saint-Esprit, cette source. Et cette source ne demande qu'à nous remplir, non seulement jusqu'à toute la plénitude, mais jusqu'à déborder de nous. Voilà donc en quoi consiste la plénitude du Saint-Esprit. Alors, oui, mais que dois-je faire? Que dois-je faire pour être rempli de l'Esprit? Ben, si vous voulez remplir quelque chose, il faut d'abord la vider. Hein. Si dans votre bouteille il y a de l'eau, et même s'il n'y a rien, il y a de l'air au moins. Ben, il faut commencer par vider la bouteille. Parce que quand vous mettez un liquide au-dessus d'un autre, évidemment ça fait mélange. Il faut commencer par vider. Et pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut commencer par se débarrasser de ce qui n'appartient pas au Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui n'appartient pas au Saint-Esprit? Regardez 1 Jean 1, 9.
1 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Voilà, donc les péchés, c'est ça qui empoisonne notre être, qui prend de la place. Et cette place-là ne peut pas en même temps être occupée par le Saint-Esprit. C'est impossible. La lumière et les ténèbres n'ont rien à voir en commun. Et donc, le Saint-Esprit voudrait bien nous remplir, mais il est empêché de le faire. Parce que quelque part, il y a quelque chose qu'il ne peut pas supporter. C'est comme si dans votre maison, il y avait un petit coin là où il y a un animal qui est mort depuis je ne sais pas combien, et puis ça pue. Hein. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans la pièce, tellement ça pue. Il faut commencer par enlever le cadavre, aller l'enterrer ailleurs, nettoyer la maison, purifier, mettre, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir l'occuper. Sinon, vous ne pouvez pas occuper une telle pièce. C'est impossible. Vous ne pouvez pas y rester quelques minutes même. Voilà le Saint-Esprit. Il ne peut pas occuper une partie de nous qui est souillée. Donc, nous devons nous débarrasser de toute souillure. Et il n'y a rien à faire, en tout cas pour celui qui ne désire pas être débarrassé de sa souillure, Dieu ne peut rien faire. Donc, quelque part, il y a une souillure, je m'en aperçois, et immédiatement, il faut que je désire en être débarrassé. Il faut qu'il y ait en moi le désir d'être rempli du Saint-Esprit. Jean 7, versets 37 à 39.
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire.
Voilà. Si quelqu'un a soif, mais si quelqu'un a soif et qu'il ne veut pas boire, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne-là? Donc, j'ai soif, il faut que je désire cette source, que cette source me remplisse. Cette source, elle est en moi. Dès l'instant où je suis né de nouveau, cette source, elle est en moi. Mais si je veux qu'elle me remplisse, il faut que j'en ai d'abord le désir. Et Dieu veut des actes concrets. Ce n'est pas simplement un discours intellectuel. Hein. Il veut quelque chose de concret. Donc, il va tester notre désir. Luc, chapitre 14, verset 33.
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple.
Voilà. Donc, si je ne renonce pas à ce péché qui est en moi, le Saint-Esprit ne peut pas me remplir. Donc, ça veut dire que, concrètement, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'agisse. Alors, il faut que j'agisse, mais en faisant confiance, c'est pas moi en réalité, mais je fais confiance à celui qui a déjà payé pour moi, le sang de Jésus-Christ qui me purifie de tout péché. Donc il y a un élément essentiel aussi, il faut la foi. Comme nous le dit Jean chapitre 7, versets 37 à 39, la foi est indispensable aussi. Ah ben on l'a lu, hein. Donc on va pas le relire. Donc ça veut dire quoi? Alors, ce que je veux souligner en fait, c'est le verset 38. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi. Donc il y a un élément, la foi, c'est-à-dire cette confiance que j'ai en Dieu et cet engagement concret pour que Dieu puisse me purifier, me remplir de son esprit. Donc, on voit que la plénitude de l'Esprit est un engagement concret. Ça demande de notre part des gestes concrets. Alors, la plénitude du Saint-Esprit, évidemment, n'est pas un oreiller de paresse. Ce n'est pas un oreiller de paresse, parce que nous l'avons vu, nous devons faire quelque chose. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, 3, si quelqu'un peut lire.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Voilà. Alors, quand on lit ça, on se dit, ah, merci Seigneur, je prends la chaise longue et voilà, je n'attends plus que l'éternité, je suis béni dans les lieux célestes. Et donc là, je suis en pleine contemplation de ma bénédiction dans les lieux célestes et j'attends. Et oui, mais attendez, je suis dans les lieux célestes. Vous savez ce qu'il y a dans les lieux célestes? Qu'est-ce qu'il y a dans les... Bon, il y a le Seigneur, mais il y a autre chose dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Bah, pardon, Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Et là, frères et sœurs, c'est vraiment un mystère. En tout cas, moi, c'est un mystère parce que comment se fait-il que dans les lieux célestes, là où il y a même la présence de Dieu, Satan se tient dans ces lieux célestes. Il est prêt à livrer bataille, à faire tout, à mettre tout en branle pour que je ne puisse pas être rempli du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit, vous avez à mener une bataille spirituelle contre ces esprits méchants qui vous empêchent de pouvoir entrer en possession de cette source d'eau, d'être rempli de cette source d'eau. Il y a des autorités qu'il faut déloger des lieux célestes et ça ne se fait pas comme ça, il y a une lutte. Il y a toute la panoplie que développe l'apôtre Paul, toutes les armes de Dieu que nous devons prendre pour lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que même si aujourd'hui, à l'instant T, je suis rempli du Saint-Esprit, ben, un peu plus tard, peut-être que je ne le serai plus. Peut-être que je ne le serai plus. Et l'apôtre Paul nous donne aussi le moyen de pouvoir conserver cette plénitude de l'Esprit. Regardez Galates chapitre 5, verset 16.
Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair.
Voilà, nous devons marcher par l'Esprit. Alors, nous n'avons pas le temps de développer ce que c'est que la marche par l'Esprit. Bon, en tout cas, si nous obéissons à ce que nous dit l'apôtre Paul ici, si nous marchons selon l'Esprit, nous n'allons pas obéir au désir de la chair. Mais marcher selon l'Esprit demande aussi de la persévérance. Ce n'est pas parce que entre midi et 18h, j'ai marché par l'Esprit, je dis, bon, ben, ça suffit, je suis maintenant suffisamment fort. Non, non, non. C'est quelque chose de continu. Mais en tout cas, cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine que nous soyons remplis de l'Esprit. Parce qu'une fois qu'on est rempli de l'Esprit, regardez ce que Dieu nous donne. Il commence par nous donner une vie abondante. Romains chapitre 8, verset 2. Romains 8, 2.
En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
La liberté par rapport à commettre les péchés. C'est incroyable, mais qu'est-ce qui peut arriver de mieux à quelqu'un que quelqu'un qui domine sur cette tyrannique, sur ce tyran qui s'appelle le péché. Il n'y a rien de mieux qui puisse nous arriver. Ensuite, regardez le fruit de l'Esprit que nous portons. Galates chapitre 5, verset 22.
Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonheur, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi.
Voilà. Ah, moi, j'en veux vraiment, j'en veux. Ça donne l'eau à la bouche, hein, de pouvoir avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ouf, merci Seigneur. Et tout. Oui.
Excusez-moi. Ce serait pas un petit peu le, comment dire, moi ça me fait penser à la plénitude.
Oui,
la,
oui.
La définition de la plénitude en fait.
Oui, oui, ben justement on y est en plein dedans. On est dans la plénitude du Saint-Esprit. On y est dedans. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Et ensuite, le Saint-Esprit justement me donne la puissance de pouvoir donc obéir à Dieu, la puissance de l'Esprit dont parle le Seigneur dans Actes chapitre 1, verset 8.
Et le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde.
Vous recevrez sa puissance. Voilà donc le Seigneur ce qu'il fait quand il nous remplit. Et mon cœur ne peut qu'abonder, évidemment, en action de grâce. Hein, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Alors, on va juste lire le dernier verset de Éphésiens 5, 18 à 21. On va lire le verset 20 et 21. Éphésiens 5, versets 20 et 21.
Rendons toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu et Père.
Voilà. Rendons continuellement grâce à Dieu. Le cœur rempli de Saint-Esprit déborde de la reconnaissance, déborde de vraiment les actions de grâce. Voilà ce que le Seigneur fait pour nous quand nous voulons bien qu'il nous remplisse de son esprit. Alors, il y a un élément qui souvent vient perturber cette quiétude. Et cet élément, en tout cas dans notre Église, on l'a vu assez souvent et on va encore revoir, on va survoler en quelque sorte cet élément-là qui est pourtant très important. Parce qu'il y a une certaine inquiétude dans le cœur, dans mon cœur, c'est le fait de savoir est-ce que vraiment ces choses-là vont durer. Je me rappelle quand je me suis converti, il y avait quelqu'un qui m'a. J'étais tellement débordant et tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit: oh, mais ne t'en fais pas, ça va durer que peut-être 2 ou 3 ans, mais je suis sûr qu'au bout de 3 ans, ça sera terminé. Heureusement, d'ailleurs, pour moi, ça ne s'est pas terminé en 3 ans. Mais en tout cas, une inquiétude, est-ce que ces choses vont perdurer? Est-ce que, en d'autres termes, j'ai la certitude que mon salut va aller jusqu'à son terme? Donc, on va voir rapidement, dans les quelques minutes qui nous restent là, cette certitude du salut pour enlever toute peur et toute angoisse. Quand on parle de la certitude du salut, on dit: oh, mais vous êtes orgueilleux. Comment peut-on être sûr qu'on est sauvé? C'est par orgueil que vous dites ça. Non, c'est pas par orgueil. Au contraire, parce que ça ne vient pas de nous. Nous étions, avant notre nouvelle naissance, nous étions tous, qui que nous soyons, fils du diable. Et Dieu nous a adoptés dans un premier temps, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, il a commencé par nous adopter en tant qu'enfant. Regardez, est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens 1, 5?
Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.
Voilà. Il nous a prédestinés. Prédestinés, ça veut dire qu'il a mis tout en branle. Des choses qui ne vont pas échouer. Il a mis tout en branle pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Et d'adoption, encore une fois, c'est parce que Dieu, au départ, n'est pas notre Père. Quand les gens vous disent « notre Père qui est aux cieux », etc., il faut faire attention, parce que Dieu n'est peut-être pas ton Père. On ne croit pas encore. Nous avons la certitude que nous sommes sauvés parce que Dieu nous a adoptés et parce qu'il y a deux bases inébranlables sur lesquelles repose notre certitude. Il y a d'abord et avant tout la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu avait pour dessein d'avoir une famille spirituelle. Et cette famille-là, Dieu va la fonder quoi qu'il arrive. Regardez chapitre, Romains chapitre 8, verset 35.
Qui nous séparera de l'amour de Christ sera sa tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qui est écrit, à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la vie.
Voilà. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ensuite, il y a toutes les promesses de Dieu qui sont contenues dans sa parole. Il y en a énormément là, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Mais on va prendre seulement Jean chapitre 3, verset 36.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et la vie éternelle dure combien de temps?
Éternellement.
Éternellement. Une vie éternelle qui ne dure que quelques années n'est pas une vie éternelle. Or, nous avons la vie éternelle. Et donc, cette vie, elle est impérissable. Et comme si cela ne suffisait pas, Christ lui-même, auprès du Père, va intercéder nuit et jour pour que notre foi ne défaille jamais, pour que notre certitude du salut ne défaille jamais. Regardez Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux 7, 25.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
Ah ouais, là vraiment, on peut souligner, étant toujours vivant. Jamais l'intercession de Christ n'aura de fin, comme l'intercession des souverains sacrificateurs terrestres. Elle avait une fin. Pourquoi? Parce qu'un souverain sacrificateur, c'est un homme, à un moment donné, il meurt. Mais là, Christ est vivant pour l'éternité. Et son intercession n'aura jamais de fin. Et donc, ça veut dire que notre persévérance va aller jusqu'à son terme. Jusqu'à son terme. Ensuite, Dieu lui-même est Dieu. Il est tout-puissant. Il a la puissance de nous garder, la capacité de nous garder. Philippiens chapitre 1, verset 8.
Verset 6.
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Voilà, s'il y a eu un commencement, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de fin. Un enfant qui est né, il est né. S'il est né avec une vie terrestre, il va mourir, puisque la vie terrestre est périssable. Mais un enfant qui est né de nouveau, sa vie, c'est une vie impérissable. Et donc Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et lui-même, il se porte garant. Ensuite, et c'est très important, nous avons changé de nature. Nous n'avons plus une nature périssable. Mais nous avons au-dedans de nous, il ne s'agit pas du corps, hein, évidemment, il s'agit de l'esprit. Nous avons au-dedans de nous un esprit impérissable. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Voilà. Donc nous n'appartenons plus à ce monde voué à la corruption. Nous avons été greffés dans celui qui vit éternellement. C'est-à-dire Christ. Et si nous sommes greffés à Christ, notre vie aura la durée, la même durée que la vie de Christ, c'est-à-dire éternellement. Voilà. Donc il est impossible que je perde cette vie. Et enfin, et c'est pour terminer, la parole de Dieu, donc, comme si ça ne suffisait pas, le Saint-Esprit va nous donner au-dedans de nous-mêmes une conviction. Romains chapitre 8, verset 15 à 16.
Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Voilà, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre... Il témoigne au-dedans de nous-mêmes en nous disant « Tu es enfant de Dieu ». Et « enfant de Dieu » veut dire que tu lui appartiens, mais pas pour un moment seulement, mais de manière éternelle. Une maman terrestre peut-être abandonner son enfant, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Voilà la certitude sur laquelle repose notre foi. Et c'est pour ça que les gens vous diront, oh oui, mais non, ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est que véritablement, je fais confiance à celui qui a écrit ces choses-là. Et si je lui fais confiance, je les expérimente dans ma vie. J'expérimente dans ma vie que véritablement le Saint-Esprit m'a définitivement et pour toute l'éternité sauvé. Et je lui fais encore plus confiance. Voilà, donc notre vie chrétienne qui est devant nous, qui va se dérouler de cette manière-là, et nous sommes certains que Dieu qui a commencé cette œuvre en nous, la rendra. Quelles que soient les circonstances, les difficultés, les maladies, les deuils, tout ce que vous voulez, ce qu'il a commencé, il amènera à la perfection. Donc, ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Alors peut-être, Benjamin, tu peux finir la prière.
Amen.
Amen. Amen.